faire dans la veine, on y va.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Crise dans l'Est de la RDC, l'ancien président Joseph Kabila critique son successeur, Félix Tshisekedi. Au Soudan, les paramilitaires des FSR et leurs alliés ont signé à Nairobi une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. En Afrique du Sud, l'électricité a été coupée dimanche dans une grande partie du pays. L'envoyé du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient a déclaré dimanche qu'il se rendrait dans la région cette semaine. En Allemagne, les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté dimanche les élections législatives. Et dans notre partie magazine, au Cameroun, des violences à caractère xénophobe ont été enregistrées dans la localité de Meyo Centre, dans la région du Sud, la région natale du président Paul Biya.
Ces incidents ont été surmédiatisés et je pense que certains ont voulu dessiner le diable sur le mur de la vallée du Thème.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'ancien dirigeant de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a déclaré dimanche que la mauvaise gouvernance de son successeur, le président Félix Tshisekedi, n'était pas pour rien dans le conflit qui sévit dans l'est du pays. Les troubles ne peuvent être uniquement imputés aux avancées du mouvement armé M23 ou aux tensions entre Kinshasa et Kigali, a écrit M. Kabila dans une tribune parue dans le journal sud-africain Sunday Times. Les innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ainsi que les massacres répétés de la population par la police et les forces militaires de Tshisekedi ne cesseront pas après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23, a estimé M. Kabila. L'élection de décembre 2023 qui a donné un second mandat à Tshisekedi à la suite d'une victoire écrasante, était un simulacre, a-t-il ajouté, accusant le gouvernement de museler l'opposition et le chef de l'État de devenir le maître absolu du pays. Les paramilitaires soudanais des FSR, forces de soutien rapide et leurs alliés au Soudan ont signé à Nairobi une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. Le gouvernement soudanais a dénoncé cette initiative tout en accusant le Kenya de l'accueillir. Le point avec Mouamadou Oumfa.
La charte a été signée lors d'une réunion à huis clos dans la nuit de samedi à dimanche à Nairobi. Les signataires du document entendent créer un gouvernement de paix et d'unité dans les zones du Soudan contrôlées par les rebelles. Un porte-parole de cette coalition a déclaré que ce gouvernement parallèle pourrait être formé d'ici un mois au Soudan. Les signataires s'engagent à construire un État laïque, démocratique, décentralisé, basé sur la liberté, l'égalité et la justice, sans parti pris culturel, ethnique, religieux ou régional. Ce gouvernement, affirme-t-il encore, visera à mettre fin à la guerre, à assurer l'accès sans entrave de l'aide humanitaire et à créer une nouvelle armée nationale, unifiée, professionnelle, reflétant la diversité et la pluralité du Soudan. En réaction, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef, a déclaré dimanche que son pays n'accepterait pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle. Le Kenya a été critiqué pour l'accueil de cette initiative par le gouvernement soudanais, qui a rappelé son ambassadeur à Nairobi jeudi, accusant le président William Ruto d'agir, je cite, « selon ses intérêts commerciaux et personnels avec les sponsors régionaux de la milice », une allusion aux Émirats arabes unis.
En Afrique du Sud, l'électricité a été coupée dimanche dans une grande partie du pays. Une coupure qui devrait durer plusieurs jours selon les autorités. Les précisions avec Abdourahmane Dia.
Eskom, la première compagnie de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, a annoncé dans un communiqué dans la matinée dimanche qu'elle limitait l'approvisionnement en électricité jusqu'à nouvel ordre en raison de multiples pannes survenues dans 3 centrales électriques au charbon. Elle a enclenché le stade 6 de son plan de gestion de la charge électrique. Au stade 6, l'électricité est coupée jusqu'à 12 fois sur une période de 4 jours pour une durée maximale de 4 heures à chaque fois. La pleine capacité électrique doit être restaurée d'ici la fin de la semaine, a affirmé le ministre sud-africain de l'énergie lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Eskom a reconnu que ces problèmes de coupure constituaient une limite structurelle au développement économique du pays et aux investissements étrangers. Eskom fournit la majorité de l'électricité de l'Afrique du Sud et environ 20% de l'énergie utilisée ailleurs en Afrique, principalement dans des pays voisins comme la Zambie et le Zimbabwe. L'entreprise publique génère plus de 80% de son électricité à partir de centrales à charbon. Elle est accablée par une dette colossale en raison d'années de corruption et de mauvaise gestion.
Les chefs d'État du Gabon et de la Guinée équatoriale ont procédé samedi à l'interconnexion de leur réseau électrique pour pallier les besoins en électricité du nord du Gabon lors d'une cérémonie dans la ville frontière d'Ebébéine. Ce raccordement est un projet du pool énergétique de l'Afrique centrale qui prévoit notamment la mutualisation des infrastructures électriques à l'échelle sous-régionale. Les autorités du Niger ont annoncé le lancement prochain de l'exploitation industrielle du cuivre dans sa partie nord désertique pour diversifier la production minière de ce pays, notamment riche en uranium. Avec le début de l'exploitation du cuivre, le Niger poursuit son programme de diversification de la production minière et marque son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de ce minerai stratégique, a commenté le gouvernement du Niger. Le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a déclaré dimanche que les élections présidentielles et législatives se tiendront le 30 novembre, alors que la date de la fin de son mandat fait l'objet de contestations de la part de l'opposition, qui estime que celui-ci arrive à échéance le 27 février. La Cour suprême a toutefois indiqué début février que M. Embalo termine son mandat le 4 septembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'envoyé du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient a déclaré dimanche qu'il se rendrait dans la région cette semaine. Steve Witkoff va tenter de faire progresser les négociations sur la suite de la trêve à Gaza et le retour des otages israéliens détenus par le Hamas. Michel Joseph.
Il faut obtenir une prolongation de la première phase du cessez-le-feu. Donc, je vais me rendre dans la région cette semaine, probablement mercredi, pour négocier cela, a déclaré Steve Witkoff dans un entretien à CNN. Nous espérons que nous serons à temps pour commencer la deuxième phase, la terminer et obtenir la libération de plus d'otages, a-t-il ajouté, alors que la suite du cessez-le-feu est en péril. Le Hamas a accusé Israël dimanche de mettre en danger cette trêve en bloquant les libérations de prisonniers palestiniens. De son côté, Israël a exigé que les prochaines libérations d'otages par le Hamas se déroulent sans cérémonie humiliante. Ces épisodes rendent incertaine la suite du cessez-le-feu, dont la première phase doit s'achever le 1er mars, sans que les termes de la deuxième étape n'aient été négociés. Je pense que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est très motivé. Il veut que les otages soient libérés, c'est certain. Il veut aussi protéger l'État d'Israël et il a donc une ligne rouge, a dit Steve Witkoff. Cette ligne rouge, a-t-il ajouté, c'est que le Hamas n'est pas de rôle dans la future gouvernance à Gaza.
En Allemagne, les conservateurs de Friedrich Merz ont remporté dimanche les élections législatives. Le chancelier sortant Olaf Scholz est le grand perdant du scrutin. Plus de détails avec Jean-Roger Billon.
Les conservateurs des partis CDU-CSU sont arrivés en tête devant le parti d'extrême droite AfD, selon les sondages à la sortie des urnes des chaînes de télévision publiques. Ils recueillent entre 28,5% et 29% selon ces sondages, tandis que l'AfD obtient 19,5% à 20%, un résultat inédit pour un parti d'extrême droite à un scrutin fédéral depuis l'après-guerre. « Nous n'avons jamais été aussi forts au niveau national », a déclaré Alice Weidel, chef de file de l'AfD. Cette formation anti-migrant et pro-russe, née en 2013, a doublé son score d'il y a 4 ans. Friedrich Merz, qui a toutes les chances de remplacer le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier, a exclu toute alliance gouvernementale avec le parti d'extrême droite. Le chancelier sortant Olaf Scholz est le grand perdant du scrutin. Son parti social-démocrate recueille entre 16 et 16,5% contre 25,7% en 2021, ce qui constitue une débâcle sans précédent pour le plus vieux parti d'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le résultat des élections est mauvais, j'en assume donc la responsabilité, a concédé le chef du gouvernement sortant, Olaf Scholz, félicitant son rival de droite, Friedrich Merz, pour sa victoire. Monsieur Merz va devoir se mettre en quête d'un ou deux alliés pour former une coalition. Dans le système parlementaire allemand, les négociations peuvent prendre plusieurs mois avant d'aboutir.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Congo-Brazzaville, l'administration publique, le secteur privé et la société civile ont validé la note conceptuelle d'évaluation du système national de passation des marchés publics. Soutenu par la Banque mondiale, ce projet vise à améliorer la gouvernance de la commande publique et renforcera la transparence, la responsabilité et l'intégrité du système. La méthodologie MAPS aidera les décideurs, l'autorité de régulation des marchés publics et les parties prenantes à évaluer la qualité des appels d'offres émis par l'État. Cette année, le Bénin prévoit une croissance élevée de 6,2%, soutenue par le démarrage de nouvelles unités de production industrielle et l'accélération des projets d'infrastructures publiques, selon la BAD. L'inflation devrait rester inférieure à 3% à court terme. Le déficit budgétaire devrait atteindre 3% grâce aux réformes fiscales. Le Bénin devrait se concentrer sur la transformation économique, notamment avec la zone industrielle de Glodiblé, pour améliorer la chaîne de valeur des produits agricoles et renforcer sa résilience économique. Pour terminer, les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté des plateformes de forage pour la quatrième semaine consécutive, atteignant un total de 592 plateformes à la fin de la semaine du 21 février, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes. Cela marque le niveau le plus élevé depuis juin, mais le nombre total est encore inférieur à 5% par rapport à l'an dernier.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Rosine et bonjour à tous.
On commence par la CAN féminine 2026 de football. Les matchs retour du premier tour des éliminatoires débutent aujourd'hui.
Oui, avec deux affiches au programme. À 15h temps universel, la Gambie joue le Niger qui l'avait battu 2-0 à l'aller. Et puis, une heure plus tard, le Bénin tentera de sauvegarder son avance de 2-1 du match aller face au Libéria à Monrovia. Son sélectionneur, Ouzerou Abdoulaye, conscient de la tâche, reste tout de même prudent.
On joue là, pas pour seulement gagner, mais pour une qualification. Mais une qualification, c'est comme une finale. Parce qu'on connaît mieux l'adversaire, même si l'adversaire aussi nous connaît maintenant. Mais on va essayer quand même de jouer sur le faille, trouver la bonne méthode afin de pouvoir remporter la partie. Mais j'ai confiance parce que je pense que le match de la dernière fois a redonné confiance aux filles aussi. Et c'est de ça qu'on avait besoin, en fait. Voilà, qu'elles se sentent capables, en fait. Voilà, parce que vu qu'elles sont restées quand même assez longtemps sans victoire, cette victoire forcément leur montre qu'elles peuvent compter sur elles-mêmes et qu'elles sont capables de faire quelque chose et de remporter les matchs.
Ouzerou Abdoulaye, sélectionneur des Amazones du Bénin. La suite de ce premier tour demain mardi avec trois matchs. Égypte, Rwanda, Mali, Gabon et Algérie, Soudan du Sud.
Autre compétition continentale, l'Afro-Basket, et on connaît tous les qualifiés pour l'édition de 2025 qui aura lieu en Angola.
Et c'est à l'issue des qualifications de la dernière fenêtre qui ont lieu du côté d'Antananarivo, de Rabat et de Tripoli. Hier, le Rwanda a décroché son ticket en remportant le match décisif face au Gabon 81-71. Qualification aussi pour la Guinée, qui a battu le Kenya 57-44, ce qui met fin aux espoirs de la Centrafrique malgré sa victoire 87-75 sur Madagascar. De son côté, le Sénégal, déjà qualifié, continue son sans-faute en dominant le Cameroun 83-78. Pour les autres résultats, victoire de l'Angola, le prochain pays hôte de cet Afro-Basket 73-62 face à la Tunisie. Succès également du Nigeria, 77-62 aux dépens du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire 82-76 face à l'Égypte 80-66 en faveur du Mali opposé au Maroc et de la Libye 69-66 contre l'Ouganda.
On quitte les parquets puis on monte sur les vélos avec le premier coup de pédale du Tour du Rwanda.
Une édition de 2025 sur fond de conflit en RDC. Cette édition est une répétition générale avant les championnats du monde de cyclisme sur route qui se tiendront en septembre prochain à Kigali. La première étape à Mauro Kigali en contre-la-montre individuelle a été remportée par le Belge Aldo Terrieux devant le Français Fabien Doubey.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le bras de fer entre le gouvernement et les agents de la société d'électricité. Ces derniers rejettent catégoriquement un contrat d'affermage de 10 ans que les autorités ont signé avec la société sénégalaise d'électricité dans le but de relancer la performance et la rentabilité de la société congolaise sœur. Les travailleurs congolais qui ont organisé une grande manifestation devant le siège de leur entreprise invitent le ministre en charge d'électricité à annuler ce contrat. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Cette convention qui va durer 10 ans donne à la société sénégalaise le pouvoir de gestion, de maintenance, de distribution et de commercialisation du courant au Congo. Pape Mamadou Diop, le directeur général de la Sénélec.
Nous apportons l'expertise d'avoir vécu la même chose. Et d'être passé par là, et Dieu merci d'avoir pu sortir le Sénégal de là. Et nos ingénieurs sont venus plusieurs fois, ils savent ce qu'il faut faire, et avec l'appui des cadres de EKRC qui constituent l'essentiel de la société d'excès du Congo que nous avons bâti, je crois que le défi, on va le relever en procédure d'urgence.
Le gouvernement congolais a opté pour la coopération sud-sud dans l'amélioration de la desserte en électricité. Jean-Jacques Ikama, conseiller du Premier ministre, revient sur les missions assignées à la Sénélec au Congo.
La gestion, l'entretien, la maintenance et l'amélioration des performances du service public de distribution d'électricité et des systèmes de facturation et recouvrement de créances et de suivi des abonnés dans le cadre de la commercialisation de l'électricité.
De leur côté, les agents de EKRC vivent ces moments comme un dénigrement, se sentant dépossédés de leur outil de travail. Ainsi s'opposent-ils catégoriquement à cette convention. Ils ont organisé une grande manifestation au siège de leur entreprise.
Ils n'arrivent pas à arranger chez eux là-bas. Pourquoi ici? Nous, on ne peut pas travailler avec eux. Quel exemple?
Au Sénégal, le courant, l'électricité en elle-même n'est pas stable. Pourquoi vouloir les accepter chez nous? Ils vont rendre stable notre électricité? Je crois non.
Ils ont de l'argent, ils peuvent créer des sociétés ailleurs. Pourquoi ici seulement? Au Sénégal, déjà, il y a un problème d'électricité aussi. Et d'eau, ils ont les mêmes problèmes que nous.
Les syndicalistes appellent le gouvernement à mettre un terme à cette convention.
Le collège syndical rejette systématiquement et énergiquement toutes ces options qui ne constituent nullement l'objet majeur des réformes du secteur. Comment comprendre que 65 ans après l'indépendance, nos dirigeants remettent en cause l'expertise nationale qui a pourtant surmonté beaucoup de défis dans la gestion des différents maillons en matière d'électricité?
Les travailleurs invitent impérativement le gouvernement à reconsidérer la démarche entreprise qui est celle de concéder le système électrique national à des tierces.
Le Congo-Brazzaville dispose d'une puissance électrique installée de 700 MW, très insuffisante pour lancer l'industrialisation du pays, notamment les zones économiques spéciales dont celle de Pointe-Noire qui nécessite à elle seule 700 MW. Le gouvernement avait annoncé pour janvier 2025 le début de construction d'un autre barrage hydroélectrique à Sunda avec l'aide de la Chine. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, des violences à caractère xénophobe ont été enregistrées dans la localité de Meyo Centre, dans la région du Sud, la région natale du président Paul Biya. Ces tensions ont dégénéré après l'assassinat de 2 individus en l'espace de 5 jours par des inconnus. Une partie de la population s'en est prise à ceux qu'on appelle des halogènes. Le même scénario a été noté dans la région du centre, en Gomezap, à 98 km de Yaoundé. Les autorités tentent de juguler ces violences. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
L'opposition condamne les récents actes de violence xénophobes à l'encontre des personnes qualifiées d'halogènes par des natifs des localités de Meyo Centre et Ngomedia. Thomas Inundam Njoya, président de l'Union démocratique du Cameroun, UDC.
Nous sommes secoués par les événements de Meyo Centre. Il y a quelque temps, je vous avais fait savoir qu'à Ngomeza, il y avait une situation très préoccupante qui nous trouble en tant que Camerounais parce que remettant en cause notre unité nationale qui est ce qui peut paraître comme étant le plus cher que nous devons tous défendre.
Profitant de l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, la candidate de l'UDC, Thomas Inundam Njoya, pense qu'il est urgent de modifier certaines dispositions de la Constitution qui exacerbent, selon elle, le tribalisme.
Nous demandons qu'on ne parle plus d'halogènes, de minorités, d'autochtones, parce que nous estimons que plus de 60 ans après les indépendances dans un pays où on est Camerounais ou on ne l'est pas.
Aucun bilan officiel n'a été rendu public sur les violences enregistrées dans la localité de Meyo Centre ou lors de la chasse au Bamoun en Ngomedia. Ernesto Yené, membre de la société civile et consultant en développement local.
Si les événements de Meyo et précédemment de Ngomedia se déroulaient à l'ouest, au nord, et au sud-ouest, je ne suis pas sûr qu'il y aurait, aussi, il y aurait le même silence de la part des autorités. Est-ce qu'on veut donner l'impression que c'est permis là-bas et pas là-bas? Est-ce qu'on veut donner l'impression que là-bas on peut regarder les autres faire que ça? Avant ces événements-là, il y a des partis politiques qui n'ont pas le droit d'entrer au sud du Cameroun et qui sont même traqués au centre, voire même Yaoundé comme des malpropres.
Professeur Nkumvondo, président du parti Univers, craint que l'impunité attise d'autres tensions en cette année électorale.
Lorsque on assiste à des violences, surtout en ce moment d'élections, nous sommes en train de préparer les élections, cela amène à créer la psychose, notamment auprès de ce qu'on considère comme étrangers, ce que juridiquement on appelle halogènes, qui auront peur d'aller voter, de peur des représailles, qui auront peur même du résultat, si le résultat n'est pas favorable aux leaders politiques. Ils se trouvent être un autochtone de là où ils sont halogènes.
Pour le député RDPC, le parti au pouvoir Germain Mengue, les natifs de son département, la vallée d'Untem, ne mènent aucune chasse à l'homme contre une autre communauté.
Nous sommes allés rencontrer dans un premier temps nos populations et actuellement nous sommes en train de réfléchir comment éviter ce genre de situation. Ces incidents ont été surmédiatisés et je pense que certains ont voulu dessiner le diable sur le mur de la vallée d'Untem.
Le gouvernement s'est impliqué en janvier dernier dans la réconciliation entre les Bamoun et les Tikar, deux ethnies de la région de l'Ouest dont le récent conflit remonte à février 2024. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, la ville d'Assigny, généralement connue par ses destinations touristiques, n'arrive pas à employer tous ses jeunes. Le secteur hôtelier, qui constitue l'activité de la ville, est majoritairement occupé par des professionnels venus d'Abidjan. Une problématique que les autorités de la ville souhaitent résoudre. Le reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Ange Nomegno.
Nous sommes à Koula, un établissement hôtelier très reconnu dans la ville d'Assigny. Une cinquantaine de personnes sont employées dans cet hôtel 5 étoiles qui fait face à la mer et à la lagune. Mais la majorité de ces personnes viennent d'Abidjan. L'hôtel a du mal à employer des habitants de la ville d'Assigny, faute de connaissances et de formation. Kwasi Akwa Joseph est l'un des rares employés de l'hôtel qui habite Assigny.
Je suis en un problème de chômage. La journée d'Assigny est un problème de chômage. Ça, c'est une inquiétude qui est Assigny ici. Les hôtels ne peuvent pas rentrer dans un hôtel sans des papiers. Il faudra fournir tous les papiers qu'il faut. Donc, on plaide à la mairie pour que la mairie moi, nous encadre. Si l'encadré est la jeunesse d'Assigny, que la mairie a pu plaider au niveau des hôtels, les hôtels peuvent recruter moins la jeunesse pour soit aller plus qui se peut écrire. Maintenant, la jeunesse qui se voit d'autres écrits, d'autres peuvent faire de la gardinage dans les hôtels, d'autres peuvent le balayer, d'autres peuvent être situation. La mairie a pu mettre cette situation en place pour quoi que la jeunesse puisse s'en sortir.
Pour venir à bout de ce problème, l'hôtel Akula a décidé de monter une école pour former les jeunes dans le domaine de l'hôtellerie. L'objectif à court et à moyen terme est de recruter ces jeunes dès la fin de leur formation. Les dirigeants de l'établissement ont voulu par ce geste participer au développement socio-économique de la ville. Renaud Chauvin-Buteau, fondateur de la maison d'Akula.
On fait le transfert, transmission de la connaissance. Il n'y a pas honte de dire je ne sais pas, j'ai envie d'apprendre. Donc si on ne sait pas, déjà il faut avoir une classe, il faut avoir de la matière, il faut avoir de l'intention. Et donc susciter l'intention, c'est ça, c'est de créer un palace et de dire à des enfants, ah, moi, je vais aller à l'école, pourquoi ? Parce qu'un jour, je vais travailler à la maison d'Akula. Et après, 2-3 ans après, toi, tu travailles où ? Ah, moi, je travaille à la maison d'Akula. Et en plus, ces élèves, non seulement on les élève et on leur apprend, mais en plus, on les paye. Et on les paye deux fois le SMIC hôtelier pour les motiver.
Selon les statistiques récentes, le taux de chômage des jeunes définis comme ceux âgés de 15 à 35 ans est estimé à plus de 30% en Côte d'Ivoire. La difficulté à intégrer le marché du travail représente un obstacle majeur au développement économique et social du pays. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse.
Qui sont découragés, qui arrêtent donc de chercher du travail. La situation des jeunes qui sont en situation donc de vulnérabilité par rapport au travail. Nous avons encore une économie qui reste encore informelle parce que 93% des actifs sont donc de l'informel.
Plus d'une centaine d'hôtels sont dans la ville d'Assigny. Des initiatives de formation ont déjà eu lieu par le passé, mais elles ne suffisent pas encore à réduire le taux de chômage dans cette ville touristique. Ange Bijounomayan pour VOA Afrique, de retour d'Assigny.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, les femmes brisent les barrières et excellent dans les métiers, entre-temps chassent gardées des hommes. Parmi elles, il y a Laetitia Ouinsou. Passionnée de mode, elle fait partie des rares femmes béninoises à briller dans le monde des BTP depuis une vingtaine d'années. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé, l'a rencontrée. Voici son portrait.
La quarantaine bien sonnée, Laetitia Ouinsou ne donne pas l'air d'être une férue des BTP. Et pourtant, elle comptabilise des dizaines de chantiers, tant publics que privés, exécutés. Chose extraordinaire, elle n'a fait aucune école de génie civil.
Après une dizaine d'années, j'ai pris goût à ce que c'est que le bâtiment. Je ne voulais plus me détacher. Déjà avec le marketing, c'était un secteur qui me permettait de bouger, de ne pas rester sur place, d'aller quand même défendre un produit, d'aller quand même à la clientèle. Et j'ai vu une complémentarité dans le bâtiment. Donc je me suis accrochée, j'ai aimé et je l'ai appris sur le tas. Ce qui m'a donné l'expérience que j'ai aujourd'hui quand même de prendre moi-même des marchés et de l'exécuter pleinement. Toujours est-il avec quand même des architectes avec qui j'ai travaillé en entreprise et qui m'accompagnent et qui aiment bien ce que je fais jusqu'à ce jour.
Recrutée dans un cabinet de BTP en tant que spécialiste du marketing, elle en sort 10 ans plus tard expérimentée et capable de diriger seule des chantiers. Mais pour s'imposer, il a fallu à Laetitia, en plus de la passion, un mental d'acier en raison des difficultés.
Ça a été vraiment un combat quand même avec les techniciens sur place, déjà avec mes collaborateurs en entreprise, parce qu'ils se disent, elle vient d'où et puis pourquoi elle est là et tout. Parce que pour couler une dalle, souvent c'est la nuit qu'on le fait. Et puis, il faut rester quand même de 20h jusqu'à 2h ou à 5h du matin et tout. C'est pas facile, mais j'aimais ce que je faisais. J'étais passionnée et j'aimais me retrouver parmi eux parce qu'ils étaient tous des garçons. J'étais seulement la seule femme. Et je me dis, pourquoi dans ce secteur, on est minorisé. J'avoue, c'est pas facile, mais je m'y plaire. Et puis, je continue toujours à le faire.
Femme de bâtiment dans l'âme et le corps, Laetitia Ouinsou a failli tout laisser tomber. Mais elle a su se faire une raison de tenir. Elle raconte.
J'ai eu un moment de déclic, je dirais, où je voulais tout abandonner. Mais je me dis non. J'avais ma passion qui était à côté, qui était la mode, où je mettais les deux qui allaient de pair. Et je dis non, je vais pas raccrocher. 20 ans en l'air, c'était pas du gâchis quand même. J'ai appris quelque chose que je veux mettre en exergue pour les gens, d'autant plus que les gens m'appellent encore pour me dire, Laetitia, ce que tu as eu à faire à telle entreprise, je veux que tu m'aides pour coordonner telle entreprise et tout, pour tel projet et tout, surtout dans la décoration aussi, interne comme externe. Je me suis dit, je vais pas raccrocher. Je vais aller de l'avant en ça. Et puis, je vais pas raccrocher, toujours est-il, ma passion aussi, parce que ça m'aide aussi à faire des décès dans la mode.
Aujourd'hui, elle espère faire connaître sa marque de vêtements dans tout le monde entier, montrer que faire un métier d'homme homme ne la dispense pas de sa féminité.
Mon rêve, c'est que ça traverse les frontières béninoises. Déjà, je lis beaucoup plus au Sénégal et puis à Abidjan et à Accra. Surtout ces trois pays, c'est les trois pays qui m'ont vraiment boosté. Je ne suis pas pressée et je sais que en faisant de bons produits, les gens vont aimer, ils vont l'adopter.
Laetitia Ouissou espère faire partie des femmes les plus importantes au Bénin et elle s'en donne les moyens et la détermination. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.